Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Innover pour durer et surtout pour gagner les prochaines guerres. Depuis 2023, c'est la mission du nouveau commandement du combat futur rattaché à l'armée de terre. Il est l'interlocuteur des entreprises de l'armement, mais aussi des start-up et des centres de recherche. Il scrute les conflits actuels et invite ses partenaires industriels à proposer des armes innovantes en seulement quelques mois. Pour en parler, je reçois le colonel Moussu, qui appartient à l'état-major du commandement du combat futur. Bonjour, colonel.
Bonjour.
Allez, dans vos mots, c'est quoi le commandement du combat futur ?
Alors, le commandement du combat futur, c'est un nouveau grand commandement de l'armée de terre qui a été imaginé et conçu pour répondre à ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire une accélération technologique dans les conflits. Et face à cette accélération, la nécessité d'apporter de nombreuses réponses, de nouvelles réponses. Parmi ces réponses, celle d'une structure qui vient fluidifier l'innovation au profit de l'armée de terre en vue de remporter les victoires de demain.
Je suppose que ce n'est pas un hasard si ça apparaît en 2023, quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par les Russes.
Alors, le projet est effectivement arrivé dans cette temporalité. Néanmoins, on faisait déjà des observations depuis quelques années de cette nécessité de penser la guerre à travers de nouvelles capacités. Le conflit au Haut-Karabakh avait montré, par exemple, une forme de dronisation assez poussée. Donc tous ces enseignements, ces observations des conflits récents nous laissaient à imaginer des besoins de capacités nouvelles. L'Ukraine a accéléré ce sentiment avec, si je prends un exemple concret, il y a environ un an et demi, il fallait 4 mois entre une innovation et sa parade. Aujourd'hui, on est plutôt dans un délai d'un mois.
Ouais. Alors, il y a quand même une expérience de l'armée française, notamment en Afrique. Donc, il n'y avait pas ces structures avant sur le retour d'expérience en Afrique pour voir quels étaient justement les besoins en armement ?
Il y avait des structures qui existaient. Certaines d'entre elles existent toujours, mais une partie du rôle du CCF est de faire converger sur un même organisme, sur une même structure, une partie de l'équation. Je vais prendre des exemples très concrets. Autrefois, nous avions des organismes dédiés au développement capacitaire technologique, comme la section technique de l'armée de terre qui existe toujours et qui nous est subordonnée, comme des bureaux à l'état-major de l'armée de terre. Et nous avions à côté des organismes comme le centre de doctrine et d'enseignement du commandement qui réfléchissaient sur le retour d'expérience à travers les expériences opérationnelles. Aujourd'hui, on a regroupé dans un même grand commandement, on a fait converger dans une sorte de commandement intégré les sujets qui nous permettent à la fois d'éclairer, d'imaginer le futur, faire de la prospective, voir les grandes tendances, d'innover et d'expérimenter à travers la section technique de l'armée de terre et à travers le laboratoire du combat futur qui font partie du commandement du combat futur. Et également de développer les forces à travers la doctrine, c'est-à-dire le mode d'emploi clair des capacités, les bonnes pratiques à mettre en œuvre sur le terrain pour obtenir des effets sur le terrain et le retour d'expérience qui est également dans la même boutique, donc au sein du commandement du combat futur.
Mais par exemple, la dronisation des combats, est-ce que l'armée de terre l'avait vue ? Parce que vous êtes quand même présent en Afrique, dans le Sahel, à partir de 2012. Est-ce que vous l'aviez vue à ce moment-là ?
La dronisation, on y avait recours, mais on y avait recours à des échelles qui étaient bien éloignées de celles qui sont celles exigées aujourd'hui par le combat de haute intensité, tel qu'on peut le voir, l'observer en Ukraine, par exemple. Cette dronisation accrue nous impose de réfléchir à la manière dont nous devons à la fois nous doter, mais manœuvrer et exploiter le renseignement lié à cette transparence accrue du champ de bataille. Donc, si la dronisation est souvent vue comme un objet majeur de l'évolution de la conflictualité, c'est pas la seule. La dronisation existe, mais il y a d'autres sujets, comme les sujets liés à la connectivité, les sujets donc liés à la donnée, à la capacité à stocker des données, à échanger des données, à traiter des données, les sujets en lien avec l'intelligence artificielle, évidemment, pour optimiser l'emploi de ces données. Et puis, ça, c'est les sujets, entre guillemets, un petit peu nouveaux, mais il y a aussi une affaire de guerre qui restera fondamentalement humaine avec l'opposition de deux volontés. Et à ce titre-là, nous continuons à creuser également dans les champs liés aux forces morales, aux champs cognitifs et aux facteurs humains dans la guerre.
Concrètement, ça se passe comment ? Vous allez voir, vous, les industriels en disant « Regardez ce qui s'est passé sur le théâtre ukrainien ou sur le théâtre en Palestine à Gaza » et vous leur dites « Est-ce que vous pouvez fournir le même type d'armes ?»
Il y a différents modèles possibles. L'objectif, c'est d'avoir ce dialogue avec les industriels, mais pas que avec les industriels. On va aller chercher dans l'ensemble des champs, qu'ils soient sociétaux, industriels, vous l'avez évoqué, militaires, plus ciblés militaires, on va dire. On va aller chercher large, de manière à pouvoir identifier des évolutions ou des potentielles révolutions à venir, les anticiper et en déduire les capacités dont on devra se doter pour répondre aux enjeux futurs. On le fait à travers le monde civil, à travers le monde militaire, on le fait à travers les exemples français, on le fait à travers aussi des échanges avec nos partenaires, on le fait à travers l'observation des capacités développées par nos compétiteurs. Donc tout ça fait qu'on a un champ assez large d'études. Et dans ce champ large d'études, on a effectivement un dialogue privilégié avec qui existait déjà initialement, qui était plutôt du domaine de l'Agence de l'innovation de défense, du domaine de l'état-major de l'armée de terre pour notre armée de terre ou de la section technique de l'armée de terre.
Ou de la direction générale de l'armement.
La direction générale de l'armement, bien évidemment. Donc on avait un écosystème qui existait déjà. Nous, on vient intégrer cet écosystème et on va essayer de jouer un rôle de facilitateur au profit notamment des sujets d'intérêt armé de terre, en dialogue avec l'interarmée, avec les autres services, et en s'appuyant sur des expertises déjà détenues.
Vous, colonel, vous allez directement voir une entreprise, par exemple ?
On peut aller voir, en tout cas, les autorités du CCF peuvent aller voir directement des entreprises, de manière à pouvoir, soit parce qu'on aura détecté des potentiels, soit parce qu'on aura, on aura attiré notre attention sur un sujet d'intérêt particulier, on peut être amené à échanger directement avec les entreprises.
Par exemple, vous avez vu sur un théâtre de guerre, vous êtes allé voir un industriel. Donnez-nous un exemple.
Alors, lorsqu'on voit un industriel, je ne citerai pas d'entreprise particulière, mais lorsqu'on voit un industriel dont les capacités sont déployées sur des théâtres tels que l'Ukraine aujourd'hui par les armées ukrainiennes, forcément, les modèles qui sont développés, qui sont combat proven au niveau de la haute intensité sont des sujets qui nous intéresseront. Donc on ira naturellement voir quels sont les retours d'expérience de l'industriel par rapport à l'engagement qu'il a eu au profit de...
Forcément un industriel français donc.
Alors, on travaille essentiellement avec des industriels de la BITD, donc la base industrielle de technologique défense. De défense.
4400 entreprises.
Voilà, on a des partenariats d'intérêt avec les entreprises françaises pour des raisons de souveraineté que vous
évidente.
Imaginez bien. Maintenant, on travaille aussi avec d'autres entreprises européennes ou mondiales au gré soit des expertises détenues, soit des partenariats qu'on a pu mettre en place.
C'est spécifique à l'armée de terre d'avoir créé ça ou vos collègues de l'armée de l'air ont aussi créé ou de la marine ont aussi créé ce genre de commandement ?
Ce que je constate de spécifique, que ce soit vis-à-vis des autres armées ou vis-à-vis de nos partenaires, on a de nombreuses visites, sollicitations pour comprendre comment fonctionne le CCF. La spécificité, c'est d'avoir regroupé, intégré dans un même organisme la prospective, le développement capacitaire et le cycle de la doctrine et du retour d'expérience. Ça concentré sur une petite entreprise, puisque le commandement du combat futur, pour reprendre une image civile, c'est un organisme de petite taille. Ça serait plutôt une PME. C'est pas une grande entreprise telle qu'un grand groupe à plusieurs milliers d'hommes. Donc mettre dans une PME l'ensemble de ces caractéristiques, c'est assez unique. Et c'est ce qui interpelle nos partenaires, puisqu'il y a des exemples qui existent, Army Futures Command, mais à des échelles tout autres aux États-Unis.
Mais dans les autres armées européennes
dans les autres armées européennes, c'est souvent les autorités, quand elles passent, elles cherchent à savoir, tiens, ça c'est chez moi c'est à tel endroit, ça c'est à tel endroit, vous c'est regroupé, c'est intéressant. Ils n'ont pas regroupé et c'est à une échelle, on va dire, donc humaine, comme je vous le précise, plutôt de type PME. Et ça interpelle et je pense que c'est une des grandes qualités du commandement de combat futur, d'arriver à regrouper avec l'agilité d'une start-up des compétences et d'aller chercher par un travail en communauté à l'extérieur les expertises qui nous manqueraient parce qu'on est en petite taille.
Quelques dizaines d'hommes et de femmes, c'est ça à peu près, ou on est plutôt à quelques centaines?
On est à quelques centaines avec la section technique de l'armée de terre.
Avec un budget spécifique ou pas?
Alors sur les questions budgétaires, le budget de l'armée de terre a une partie dédiée à l'innovation et on a un droit de tirage sur cette partie dédiée à l'innovation. Qui est en cours d'évolution. Vous savez qu'il y a les sujets budgétaires qui restent encore à cadrer pleinement. Mais en tout cas, il y a une enveloppe dédiée au CCF au titre des prérogatives dans l'innovation.
C'est-à-dire concrètement, vous avez une enveloppe et vous pouvez aller voir concrètement une entreprise et l'aider à développer un produit.
Concrètement, on a une enveloppe. On travaille ensuite en dialogue avec l'état-major de l'armée de terre pour dire, voilà, nous, on a perçu ça. La cohérence de développement des capacités de l'armée de terre est détenue au niveau de l'état-major de l'armée de terre par des textes. Ouais. Donc on interagit avec cet acteur incontournable. On lui dit, tiens, on a le sentiment qu'il faut développer cette capacité. Voilà le devis, voilà comment on imagine le montage financier. Et on dialogue et derrière, on voit comment on inscrit cela en programmation.
Merci beaucoup, Colonel Moussu, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.